Sans ta parole, ô Dieu, nous serions oiseaux sans ailes, puits sans eau, nuit sans lune, désert sans oasis. Ô notre Dieu, par ton esprit, que ta parole se lève et nous rejoigne au travers des Écritures, afin que nous la recevions comme la vie de notre vie. Amen. Je vous propose ce matin de lire un assez long texte, puisque c'est tout un chapitre de la Genèse, le chapitre sur le péché dit originel, la tentation et la chute, donc le chapitre 3 de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme : Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit « Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu ?» Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit « Qui t'a appris que tu es nu ? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et lui blessera le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chemin. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Alors voilà, le sort en est jeté. Au terme de ce chapitre 3 de la Genèse, l'homme et la femme, ainsi que l'intégralité de leur descendance, sont définitivement pécheurs et éternellement coupables. Et c'est pire encore au terme du chapitre suivant, qui raconte le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Désobéissant, menteur, mauvais, coléreux, violent. À peine créés, les êtres humains sont des créatures qui font honte à leur créateur, qui semblent déjà s'en mordre les doigts. Et désormais, l'essentiel de leur existence sera occupé à réparer ces péchés initiaux des premiers humains, et surtout ce péché dit originel, qui marque encore notre inconscient collectif d'une culpabilité honteuse et sur lequel nous allons concentrer notre prédication de ce matin. Il faut dire qu'ils l'ont bien cherché. Si on prend le texte à la lettre, Adam et Ève, créés et installés dans un jardin paradisiaque, dans lequel tout leur est donné à volonté, auraient pu vivre éternellement heureux s'ils s'étaient contentés de ce bonheur simple et sans complications. Le jardin d'Éden, tel qu'il est décrit au chapitre 2 de la Genèse, c'est une sorte de lieu magique, comme on en imagine un peu dans les films de Walt Disney. Des arbres et des fleurs partout, gorgés de fruits et de fleurs, des animaux tous doux et utiles, des fleuves qui coulent sous des petits ponts bien rangés, des réserves d'or et de métaux et de pierres précieuses qui brillent aux yeux des habitants sans aucun risque. Un lieu où l'on peut vivre nu, profiter de tout ce qui s'y trouve, sauf d'un arbre central, seul interdit de ce paradis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est justement celui auquel le serpent, puis Ève, puis Adam, goûtent au chapitre 3, et qui donc provoque leur punition légitime, leur bannissement du jardin, le châtiment qu'ils ont bien mérité, puisqu'au fond, ils étaient bien prévenus. Alors probablement que si on interroge la plupart d'entre vous dans ce temple, vous direz que le péché originel ne pèse pas grand-chose sur vos épaules. Vous n'y accordez aucune importance, ou presque. Quoique, même si nous n'y croyons pas ou si nous n'y pensons pas, ce processus de culpabilité héréditaire a tellement bien imprégné notre inconscient collectif que l'on lutte souvent contre une tendance spontanée à culpabiliser, comme si notre ADN avait intégré les siècles d'injonctions chrétiennes à l'auto-flagellation. Vous savez, ce geste qu'on fait régulièrement. Combien d'entre vous disent régulièrement « c'est ma faute, non, c'est vraiment ma faute, c'est sûr ». Je suis sûre que beaucoup se reconnaissent. Alors ce matin, j'aimerais explorer avec vous, tout d'abord, les ressorts de ce péché dit originel et la résonance qu'il a encore aujourd'hui dans nos vies. La construction, parce qu'il s'agit bien d'une construction, de ce mythe, qui a permis de faire plier, que dis-je, d'écraser des générations et des générations d'êtres humains, et très singulièrement des femmes, au prétexte qu'il ou elle serait responsable, par un simple effet de filiation, d'une faute due à leur condition humaine, et qu'il ou elle devrait en quelque sorte payer, racheter éternellement la faute majeure commise par un ascendant initial. Et puis dans un deuxième temps, je voudrais revenir aux origines et relire ce texte de la Genèse sans le prisme des 2000 ans d'histoire du christianisme qui ont suivi, pour essayer de comprendre ce que nous dit cette mésaventure aujourd'hui, cette mésaventure initiale des relations entre les êtres humains et Dieu. Retrouver le texte brut, sans l'influence des coutumes, religions, règles, histoires qui lui ont succédé et qui ont probablement tordu le sens que nous pourrions lui donner aujourd'hui. Alors commençons donc par ce mythe du péché originel. Dans le texte original que nous venons de lire, vous avez remarqué que le terme de péché n'est jamais utilisé. Mais en revanche, on assiste à une explication assez claire de l'enchaînement des événements, depuis l'installation du couple dans le jardin d'Éden, jusqu'aux fruits défendus et consommés, puis à la punition du serpent, de la femme et du mari, et enfin au bannissement final du couple. Fin de la séquence. Mais pas fin de l'histoire, puisque celle d'Adam et Ève commence réellement à ce moment-là, leur existence d'adulte. On dit que Adam connaît Ève, qu'ils deviennent les ancêtres de toute l'humanité, ce n'est quand même pas rien. Pas d'autre vengeance divine les concernant, pas d'autre épisode de souffrance par la suite. pas de culpabilité durable décrite dans les chapitres suivants. Alors pourquoi ce texte initial qui installe un mécanisme de faute, punition et culpabilité ? Chez les premiers chrétiens, on commence à s'interroger sur la signification de ce texte, à l'instar de Paul, qui dans son épître aux Romains, au chapitre 5, verset 12, écrit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » On voit bien que Paul commence à utiliser ce terme de péché pour l'appliquer à tous, un péché qui expliquerait la mortalité humaine, plutôt la condition mortelle des humains, plus tard rachetée par le sacrifice de Jésus-Christ. Deux ou trois siècles après, les choses commencent à déraper vraiment avec saint Augustin, au IVe siècle. Saint Augustin ou Augustin d'Hippone a été nourri au néoplatonisme qui faisait du corps une prison et le siège de toutes les passions négatives. Et lui, il met au point le concept qui fera un malheur, celui du péché originel qui se transmettrait par les femmes. C'est le point de départ d'un mythe qui perdure dans le monde chrétien depuis 2000 ans, que ce soit dans les dogmes, dans les représentations artistiques qui sont extrêmement nombreuses, dans les coutumes, dans la morale et jusque dans l'inconscient collectif des chrétiens d'aujourd'hui. Au passage, saint Augustin introduit également le concept de concupiscence qui découle d'un affaiblissement de la volonté de l'homme, surtout quand il s'agit de la sexualité. Et l'explication induite, abondamment illustrée mais jamais exprimée clairement, c'est que le fruit défendu et croqué par Adam et Ève représente leur première relation charnelle, répondant ainsi à un désir sexuel partagé. Et la fautive, la tentatrice, devinez. Devinez qui est-elle, c'est la femme. Cette interprétation marque l'ensemble du Moyen-Âge, qui est dominé par l'inquiétude face au péché. C'est à cette époque qu'apparaissent les confessions, les indulgences, et aussi quelque chose d'absolument incroyable, le baptême d'enfants nouveau-nés, dont on prétend laver la culpabilité héréditaire du péché originel dès leur naissance, comme si ces nouveau-nés portaient en eux le péché de leurs ancêtres. Bien plus, cette notion de péché originel donne une autorité morale à la misogynie, en faisant retomber l'origine de l'état de pécheur sur la femme exclusivement. On combat donc le péché comme maladie atteignant le corps social et ecclésial. Les hérétiques et les autres sorcières sont brûlées pour guérir la société et maintenir l'ordre. À cet égard, je vous conseille vivement l'ouvrage de Mona Chollet qui s'appelle « Sorcières », qui est absolument extraordinaire sur ce phénomène. Les femmes se font discrètes, leur sexualité devant être essentiellement reproductrice, conformément aux préceptes publics et ecclésiaux, est 100% déconnectée d'un désir qui, lui, est systématiquement diabolisé. Leur féminité est constamment questionnée à l'aune de leur réputation. Leur comportement prétendument tentateur constamment épié. Elles deviennent les coupables idéales d'une société dominée par les hommes, et cette culpabilité les rabaisse à un rang d'infériorité dont il faudra presque 20 siècles pour venir à bout. Mais le pire est encore à venir. Au fil des siècles, la morale prend le relais du péché religieux. Et ce sont les règles morales de la société qui, liées à celles de l'Église, disent le bon et le mauvais. Il faut désormais confesser ses petites et grandes fautes, rentrer et rester dans des comportements modélisés et normatifs. L'acception moralisante et sexuelle du péché originel a définitivement gagné la partie dans la théologie chrétienne. Une seule voix dissonante existe, celle qui viendra de Jean-Jacques Rousseau, cher à Bruno Planty, notre ami Bruno Planty. Pour lui, en effet, le péché originel est une doctrine bien commode qui incrimine sans cesse la nature humaine. Il parle avec ironie de ce péché pour lequel nous sommes punis très justement des fautes que nous n'avons pas commises. Et lorsque Jean Delumeau, professeur au Collège de France, qualifiait l'histoire du christianisme en Occident de « religion de la peur » avec son entreprise de culpabilisation et son obsession de la faute, il faut bien reconnaître qu'il avait raison. Même dans nos sociétés occidentales largement sécularisées, dans lesquelles le dogme du péché original a peu à peu disparu de tous les catéchismes, on se surprend aujourd'hui à avouer sa culpabilité et demander pardon pour des méfaits commis par les générations qui l'ont précédé. Par exemple, le colonialisme, l'esclavagisme, la complicité de l'arrestation des Juifs pendant la guerre, etc. On comprend donc qu'on est loin encore d'inverser la tendance de la culpabilité héréditaire. Alors, après avoir fait le tour d'horizon rapide des conséquences assez désastreuses d'une interprétation qui n'a cessé d'être détournée au profit d'une idéologie à sens unique, je vous propose, comme promis, de relire ce texte dans notre peau d'aujourd'hui, en 2023, mais en oubliant totalement ce que nous connaissons de cette histoire, en oubliant totalement les conséquences conscientes et inconscientes de tout ce que je viens de rappeler. Une sorte de déconstruction, pour employer un terme à la mode également. Donc, on déconstruit totalement le mythe d'Adam et Ève, le péché originel, et on repart dans le jardin d'Éden en compagnie du premier couple humain, supposément créé par Dieu, au premier temps de leur existence terrestre. Alors, petit point préalable, souvenons-nous qu'il s'agit tout de même d'un texte mythologique, tel qu'il en existe d'autres dans d'autres civilisations, justifié par un besoin d'expliquer d'où nous venons sur cette terre. Il est évidemment extrêmement intéressant d'en rechercher son sens théologique, mais gardez bien en tête qu'il s'agit bien d'un texte non historique. Donc, Adam et Ève, nus et heureux dans le jardin d'Éden. Ils ont été créés, dit la Genèse en chapitre 1, à l'image de Dieu. Et si cette expression « à l'image de Dieu » est assez ambiguë, en revanche, leur mission, décrite également au chapitre 1, est très très claire. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, dominez sur les poissons, les oiseaux et les animaux. La rédaction du texte exprime vraiment que Dieu leur donne les clés et qu'il leur délègue tout pouvoir sur la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, quelques versets plus loin, Dieu installe le couple dans le jardin d'Éden, qu'on nous décrit comme un paradis sur terre, mais avec des frontières bien circonscrites, comme une sorte de vie en captivité dans un camp, dans un parc d'attractions formidable, mais tout de même un parc clos. Et dans ce lieu, Dieu instaure un premier interdit. Vous pouvez vous servir de tout, manger et toucher à tout, sauf que vous ne pouvez pas manger des fruits de l'arbre de vie ou l'arbre de connaissance du bien et du mal. Une interdiction sans appel et sans explication. Et bizarrement, cet arbre, il est installé en plein milieu du jardin d'Éden. Est-ce pour les mettre à l'épreuve ou au contraire pour les pousser à transgresser son ordre ? Vous avouerez que quand on interdit quelque chose, que ce soit pour des enfants ou pour un quelconque groupe humain, la moindre des choses, c'est de ne pas le poser précisément en plein milieu de leur terrain de jeu. Ou alors, c'est qu'on cherche vraiment le résultat inverse. Une interdiction correspond en général soit à un danger, je t'interdis d'ouvrir la fenêtre parce que tu risques de tomber, soit à une volonté de garder pour soi sans partage, ne touche pas à mes affaires, c'est à moi, je veux les garder, soit encore un interdit religieux ou un dogme qui, la plupart du temps, se passe d'explication. Tu ne mangeras pas de porc, tu porteras le voile, tu ne toucheras pas ta femme impure pendant ses règles, etc., etc. Et dans le cas de l'arbre de vie, il semble qu'il s'agisse un peu de tout cela. C'est dangereux, parce qu'on risque d'en mourir. Et c'est aussi le domaine réservé de Dieu, puisque c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quelque chose qui lui appartient, qu'il ne partage pas. Et on voit même là apparaître pour la première fois une forme de sacralisation qui permet de positionner cet objet au-delà de l'humain, au nom d'une croyance, et sans se poser d'autres questions. Mais en tout état de cause, l'interdiction montre bien que Dieu considère Adam et Ève comme des enfants qu'on protège et à qui on n'expliquera pas tout. En d'autres termes, il installe sciemment le couple dans le jardin en lui laissant les clés, mais en agitant sous son nez son passe-partout à lui. Et ce faisant, il expérimente pour la première fois et immédiatement la nature véritablement humaine des êtres qu'il vient de créer. Adam et Ève, comme nous tous, ont besoin de liberté, de transgression, d'imagination, de création peut-être tout simplement. Est-ce que Dieu attendait vraiment d'Adam et Ève qu'ils restent tranquillement dans le jardin d'Éden sans s'affranchir de cette semi-captivité ? Est-ce qu'au fond, il ne souhaitait pas les voir remettre en cause très vite cette interdiction ? Après tout, pour lui aussi, c'est la première fois qu'il expérimente les humains. D'ailleurs, lorsqu'ils mangent du fruit défendu, ce sont eux qui ressentent immédiatement le sentiment de culpabilité, puisque le texte dit qu'ils se cachent et qu'ils prennent conscience de leur nudité, qui est une métaphore de leur culpabilité. Dieu les cherche et les interroge. Puis il punit le serpent, qui sera toujours un animal maudit. Il punit Ève, qui enfantera dans la douleur. Il punit Adam, qui désormais devra extirper sa nourriture d'une terre aride et dure. Faute, punition, culpabilité. Alors, comment peut-on appeler ce qui s'est réellement passé dans le jardin d'Éden ? Est-ce que c'est le premier péché ? Ou bien juste la première manifestation de la nature humaine ? Une nature humaine que Dieu lui-même découvre essentiellement fragile, essentiellement faillible, qui a constamment besoin de bienveillance pour être poussée dans le bon sens. Une nature humaine dans une interdépendance avec Dieu, dans un dialogue qui doit apprendre à responsabiliser plus qu'à punir. Un dialogue qui n'est fécond que dans une liberté partagée. En nous maintenant dans un cercle vicieux de action, faute, culpabilité, comme si nous étions toujours en maternelle, le Dieu des premiers hommes ne nous rend pas service. En fait, au terme de cette réflexion, je lis le texte aujourd'hui comme une sorte de métaphore psychanalytique de l'adolescence. On passe d'une enfance heureuse et insouciante vers une adolescence rebelle, et avec elle, les difficultés à trouver sa place, mais surtout la découverte de la sexualité et du désir qui provoque la honte. Le péché serait donc l'affranchissement d'une sorte d'enfance idéalisée vers l'âge adulte sexualisé avant d'aborder un âge adulte responsable et autonome. Mais quel besoin de mettre ce passage difficile sur le compte d'un Dieu qui voudrait nous censurer ? Alors en conclusion, je voudrais me demander de quoi Adam et Ève sont-ils vraiment coupables ? Et si le procès du premier couple mythique dure depuis 25 siècles, c'est que l'enjeu est de taille. Il s'agit, ni plus ni moins, de comprendre la nature humaine, et par là de comprendre comment sont initiées les relations entre Dieu et les humains. Un dialogue tâtonnant, heurté de rapports de force, dans lequel chacun avance parfois en décalage par rapport à l'autre. Un dialogue dans lequel les humains se trompent souvent sur Dieu, lui attribuant plus de cruauté et de colère qu'il n'en a, mais aussi dans lequel Dieu se trompe également souvent sur les humains, en les maintenant dans une dépendance inutile, de peur qu'ils fassent des erreurs. Et je veux croire qu'il a tiré de cet épisode initial de précieux enseignements pour le début de ce long chemin avec les humains. Les humains adorent se prendre pour Dieu, mais ils sont capables de le reconnaître et de demander pardon. Les humains sont fragiles, ils ont besoin d'aide et de confiance pour avancer et pour grandir. Les humains sont spontanés et parfois brutaux, mais ils sont capables de comprendre, de pardonner, d'admettre leurs erreurs et de faire mieux. Ce n'est qu'au prix de cet échange exigeant, constant, honnête, non culpabilisant, que notre cheminement commun fera de nous des adultes responsables et libres, Et en cela, je ne peux pas croire que le Dieu des premiers humains soit si différent de celui d'aujourd'hui. Amen.